Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 31 mars. Nous ferons le point sur les inondations en Nouvelle-Galles du Sud après une période de pluie une nouvelle fois très intense ces derniers jours. En Ukraine, peut-être une accalmie à Mariupol et un cessez-feu local temporaire pour évacuer les derniers civils bloqués dans la ville. Et le monde du sport en Australie qui rend hommage à l'un des siens, Shane Warne, hier à Melbourne. Comme je viens de vous le dire en titre, on va parler des inondations pour débuter ce journal. Des inondations qui ont continué à faire rage dans la partie nord de Nouvelle-Galles du Sud, provoquant des évacuations à Lismore par exemple, seulement quelques semaines après des inondations précédentes. Il y a une femme qui est recherchée, une femme est portée disparue. Elle s'appelle Anita Brackell, elle a 55 ans. Elle est de la région de Nowra. Donc les recherches poursuivent. La police affirme qu'elle a été piégée dans sa voiture mardi soir près de la Wirrala Road. C'est donc au sud de Lismore, la commissaire adjointe du SOS, Nicole Hogan, a déclaré à l'ABC que certains nombres d'avertissements et d'ordres ont d'ores et déjà été mis en œuvre. On l'écoute.
We have 20 evacuation orders out at the moment with impacting approximately 27,000 people. There is also a number of evacuation warnings in the communities in the Northern Rivers and in the Mid-North Coast areas. And we are trying to get people back into their communities as quickly as we can. So we will continue to work with the communities in those areas that are under evacuation order. And as soon as it's safe to do so, we'll lift those orders.
Voilà, donc la commissaire adjointe du SOS, Nicole Hogan, fait très attention si vous êtes dans la région donc de Lismore. L'ancien maire de Byron Bay a demandé que le financement gouvernemental des aides en cas de catastrophe soit révisé à la suite donc d'une série de catastrophes naturelles dans tout le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Simon Richardson a déclaré à SBS News que le modèle actuel de financement des cas catastrophiques est fait tout à l'envers. La plupart des financements venant après la catastrophe plutôt qu'avant sous forme de stratégie ou de préparation d'atténuation de problèmes écologiques. Il a dit qu'une partie du problème réside dans le processus de planification actuel qui retire aux conseils locaux le pouvoir d'approbation pour des développements au-dessus de plusieurs millions de dollars, tout en supprimant leur pouvoir d'arrêter, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement. On l'écoute.
West Byron development was just approved. It would have had 90% opposition by the community. Council refused it. In this particular case, the planning panel, regional planning panel, also refused it, and it just won an appeal only about a week ago, and right now is utterly underwater. And so when the community looks around and sees these decisions, they scratch their heads.
13h04, direction l'Ukraine maintenant. Un nouvel espoir pour la ville de Mariupol. Cette ville est la plus durement frappée par l'armée russe, mais les autorités de Moscou semblent avoir autorisé un cessez-le-feu local afin de permettre l'évacuation des civils. Mais c'est un cessez-le-feu avec des conditions. Marie Normand pour RFI.
Le ministère russe de la Défense exige du gouvernement ukrainien qu'il s'engage par écrit à respecter ce cessez-le-feu de façon inconditionnelle, qu'il s'engage également à assurer la sécurité des convois de bus qui circuleront le long de l'itinéraire convenu. Ce cessez-le-feu doit permettre d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville de Zaporijjia, à quelques 220 km au nord-ouest, avec une étape par le port de Berdiansk, qui est lui toujours sous contrôle russe. Moscou propose au Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et à la Croix-Rouge de participer pour, je cite, que cette opération humanitaire réussisse. Cette annonce fait suite à la tentative infructueuse du président français Emmanuel Macron d'organiser cette évacuation avec le soutien de la Turquie et de la Grèce. À l'issue d'un nouvel entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine mardi, il avait soutenu que les conditions d'une telle mission n'étaient pas réunies.
Et c'était Marie Normand pour RFI. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi, a visité une centrale nucléaire dans le sud de l'Ukraine. Selon M. Grossi, même si l'AIEA n'est pas impliquée dans les pourparlers politiques, ses membres sont en contact permanent avec les responsables russes. Il dit que le personnel de l'agence en Ukraine est là pour fournir une assistance technique et renforcer la sécurité des installations nucléaires dans le pays. On l'écoute.
We are trying to be very active in order to ensure that as soon as possible this situation is redressed and the facilities are back in the hands of the Ukrainians. It's a difficult work, as you can imagine, but one that it is, of course, inescapable, and it is our responsibility.
Voilà donc pour la situation dans le nucléaire en Ukraine. Direction Kharkiv maintenant, et après d'intenses bombardements, une petite accalmie semble prendre place. Et l'urgence, c'est aussi la protection des œuvres d'art et le patrimoine culturel de cette région. Reportage de Sami Bourelifa.
16 mètres de haut, le monument de la place de la Constitution disparaît progressivement derrière des sacs de sable. Empilés en pyramide, ils avalent déjà la moitié de la statue qui trône au sommet. En fonte noire, la silhouette d'une femme ailée brandissant une couronne. Elle est le symbole de l'indépendance de l'Ukraine, explique fièrement Volodia.
On ne veut pas que nos monuments soient endommagés par des éclats d'obus. Nous aimons notre patrimoine, c'est pour ça que nous le protégeons. Cette statue, c'est l'héritage de nos enfants et de nos petits-enfants. Les générations futures doivent se rappeler que nous avons construit tous ces monuments de nos propres mains.
Volodia et ses collègues ouvriers chargent les sacs de sable dans la nacelle de la grue. Depuis une semaine, ils ont couvert une grande partie des 50 monuments de la ville.
Le 23 mars, nous avons commencé par la statue du poète Taras Shevchenko, grande figure du patriotisme ukrainien. Même durant l'occupation allemande de l'Ukraine, sa statue n'avait pas été touchée. Elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale.
Au loin, les déflagrations des bombes résonnent. Prochaine étape pour Volodia et les autres ouvriers, ériger des barricades autour du monastère de la ville, vieux de 300 ans.
Et c'était Sami Bourelifa, donc dans les rues de Kharkiv. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demande aux États membres de mettre en œuvre les recommandations de financement pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU. S'adressant à la commission de maintien de la paix, M. Guterres a déclaré que les catastrophes qui ébranlent les fondements de l'ordre international sont un désastre pour les pays en développement et il renforce le besoin de missions de maintien de la paix. D'après lui, le monde est confronté au plus grand nombre de conflits violents depuis la Seconde Guerre mondiale. On l'écoute.
The problem is that our task grows larger by the day. As detailed in the report, we are facing the highest number of violent conflicts since 1945, from Yemen to Syria, Myanmar and Sudan, from Haiti to the Sahel, and on and on. And now the war in Ukraine, a catastrophe shaking the foundations of international order, spilling across borders and causing skyrocketing food, fuel and fertilizer prices that spell disaster for developing countries.
C'était donc Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité internationale, direction la Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson devrait faire face à des questions sur son soi-disant ou sur le soi-disant scandale du Partygate lorsqu'il frontera aujourd'hui le comité de liaison de la Chambre des communes. Number 10, son bureau a déclaré à plusieurs reprises que Boris Johnson n'avait pas induit en erreur le Parlement britannique ou même les électeurs lorsqu'il avait nié avoir enfreint la réglementation contre le Covid-19, mais il aurait également assisté à au moins la moitié des 12 soirées présumées donc, qui ont eu lieu dans les locaux de 10 Downing Street. La police britannique a commencé à infliger des amendes pour une série de fêtes organisées donc, dans le bureau du Premier ministre au mépris des lois du confinement en vigueur dans tout le pays à l'époque, mais les personnes condamnées à cette amende n'ont pas encore été nommées. Dans une interview accordée à Sky News, le vice-premier ministre britannique Dominic Raab a reconnu que les amendes étaient tout simplement appropriées.
Of course, we wait to see the outcome of the conclusion of the Met process, and there will be an opportunity then for an update on Sue Gray's report and full transparency around that. And yes, inevitably, the fixed penalty notice is for those that have breached the regulations, and we stand by and support the fact that there should be the Met process, the Sue Gray process, an accountability for this.
Et c'était donc Dominic Raab, le vice-premier ministre sur Sky News. Direction l'Irak maintenant, et c'est une paralysie institutionnelle qui plombe le pays. Le Parlement n'arrive pas à élire un nouveau président. Les explications avec Lucille Wasserman.
L'Irak est-il devenu ingouvernable ? Une demi-année après les élections, les habitants attendent toujours le nom de leur président et du Premier ministre. Pour conduire le vote, 220 députés sur 329 doivent être présents au Parlement. Et à trois reprises, le quorum n'a pas été atteint. En cause, la détermination de Muqtada Sadr, grand vainqueur des élections, à imposer ses candidats au poste clé de l'État, sans négocier avec les partis adverses, pro-Iran. Depuis 2005, la tradition politique irakienne veut pourtant que tous les partis y trouvent leur compte. Mais aujourd'hui, Moqtada Sadr veut former un gouvernement dit de majorité et refuse le compromis. Problème avec ses alliés kurdes et sunnites, l'influent clair chiite n'atteint pas les 220 sièges nécessaires et les partis pro-Iran continuent de boycotter les sessions. La plus haute instance judiciaire a donné aux députés jusqu'au 6 avril pour élire le chef de l'État, mais ne dit pas ce qu'il se passera si le délai n'est pas respecté. Certains observateurs évoquent la possibilité de nouvelles élections.
Et c'était Lucie Wasserman pour RFI. Un service a été organisé pour Shane Warne, qui est décédé subitement à l'âge de 52 ans il y a quelques semaines. Summer, la fille de Shane Warne, a prononcé un discours émouvant, remerciant son père de l'avoir sauvé pendant des moments difficiles. Il y avait environ 50 000 membres du public, 50 000 personnes qui se sont réunies au stade, donc au MCG, pour faire leur dernier adieu à Shane Warne. Et d'autres ont regardé à la télévision, une énorme production donc au MCG. Le service a commencé par un moment de silence, une minute de silence et une vidéo présentant les meilleurs moments de la carrière de Shane Warne. Le maître de cérémonie, c'était Eddie McGuire. Il a été accueilli par la foule et il y avait également l'acteur Eric Bana qui lui a rendu hommage.
And so began his great love affair with a passion that knew no boundaries that would turn Shane Warne into the greatest leg spinner of all time. Indeed, he changed the game of cricket like only the legendary Don Bradman had before him. Heart magician, full-time showman, he mesmerised fans as he did the best batsman in the world. Meanwhile, kids in dusty laneways and backyards wanted to be just like Warnie.
Voilà, donc c'était au MCG hier soir, un moment très émouvant si vous étiez fan du cricket, tout simplement fan de sport. Shane Warne, donc, qui a été honoré hier au MCG. 13h13, on va faire un court tour d'horizon de la météo en Australie. À Perth, il fera 31 degrés aujourd'hui, Adelaide 22, Melbourne 21 degrés, Hobart, vous aurez un petit peu froid, il fera 15 degrés, Canberra 18, Sydney 22 degrés, il fera 29 degrés à Brisbane, 33 degrés à Cairns, et comme toujours, il fera le plus chaud, 34 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité. Aujourd'hui, on l'a vu dans ce journal, un point sur les inondations en Nouvelle-Galles du Sud. La situation qui a l'air de s'améliorer, mais faites quand même attention si vous êtes dans la région de Lismore. En Ukraine, petite accalmie peut-être à Mariupol. Un cessez-le-feu local et temporaire pour évacuer les derniers civils bloqués dans la ville. Et on vient d'entendre le monde du sport en Australie qui rend hommage à Shane Warne hier soir à Melbourne. Voilà, c'est tout pour ce journal.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.